RFI. Radio Foot International.
Olivier Pron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. C'est bientôt Noël avec tous les cadeaux qu'elle veut nous faire. La dame a bien besoin de 3 jours, elle les a pris mesdames, messieurs. On les lui a donnés, mais idée qu'elle va bien nous gâter. Gâter comme le PSG et Lyon, mais pas tout à fait de la même façon. 8e de finale de la Ligue des Champions, mi-février. Le mu de mou pour Paris, pour l'OL, le Barça de Messi, du bon à prendre. Oh, ça pouvait pas être pire. Nous allons décortiquer ce tirage au sort de la mi-journée qui nous offre aussi de très très belles affiche par ailleurs. Décortiqué, Philippe Doucet est en général là pour ça.
Ouais, j'adore les crevettes.
Bah bien sûr, c'est la saison, patientez encore quelques jours. Et comme nous allons parler de Manchester United, autant élargir à la Première Ligue. 4 représentants dans ses 8e, notamment les 3 premiers au classement. Liverpool, leader confirmé après un net succès hier des Reds sur les Red Devils. Manchester City est à 1 point, Tottenham est là aussi. Quelques mots également d'Arsenal, battu hier à Southampton après 22 matchs sans défaite. Les Gunners 5e à 3 points des Blues de Chelsea. Bref, il y a de l'impact player dans ce championnat et nous avons, nous, notre impact consultant, Salim Bomgali.
Si bien présenté.
Bah, non, mais
j'ai... Oh, magnifique, merci Olivier.
Je viens de passer 2 heures avec RMC, hein, pour lesquels vous travaillez en fond sonore et on parle beaucoup de impact player. Hein. C'était votre
exactement.
Terme avec
c'est
Emmanuel
ça.
Petit.
Totalement, exactement. Bonjour.
C'est pour
Olivier.
Ça, je suis à l'affût.
Qu'est-ce que c'est produit ?
Un petit peu de Ligue 1 pour terminer et il faut l'avouer pour dire du mal. Oui, de Monaco, tellement fantomatique hier à Lyon qu'il file tout droit vers la Ligue 2 et donc dans ces cas-là, ceux qui en parlent le mieux de cette descente aux enfers programmée, eh bien ce sont les voisins, les Niçois. Les gars comme Patrick Juillard.
Avec
quoi,
un petit sourire carnassier sur les lèvres.
Mais bien sûr. Bon alors avec tous ces consultants catalogués, vous l'avez compris, étiquetés, il nous fallait du neutre, du carré, bref, du Frédéric Suto, il est là aussi avec nous.
Salut Olive.
Allez Radio Foot sur les rails, Laurent Salerno, lui, aux manettes. Ça, on n'en avait pas parlé, Laurent Salerno, quand c'est moi qui parle de Ligue des Champions, ne met jamais cette musique qui est horrible à écouter. On se la garde pour les mardis soirs et les mercredis soirs d'hiver. Non, mais c'est vrai, la musique de Ligue des Champions, ça vous plaît encore, vous? Vous aimez
la plus belle, bien sûr. Elle sera toujours la plus belle. Oh,
c'est pas faillons. La musique qui est belle, c'est les moments auxquels on l'associe.
Bon, enfin, on va s'associer à des 8e de finale quand même. Qui ressemble à quelque chose, on s'en doutait, parce que tout était réuni, il n'y avait pas vraiment de grosse équipe éliminée, tous les gros étaient là, et alors ils avaient eu la bonne idée d'être tous premiers, donc on savait qu'on allait avoir des affiches plutôt intéressantes. On va d'abord parler des clubs français, évidemment, parce qu'il y a d'abord une très belle affiche, ouais, elles sont toutes belles, mais Manchester United-Paris Saint-Germain, je le dis dans cet ordre-là, parce que comme Paris était premier, bah, ils recevront au retour, c'est le petit avantage que peut avoir le premier, si c'en est encore un avantage. Manchester United-Paris Saint-Germain, on a l'impression de la vie générale, alors je vais faire un petit tour de table, c'est un bon tirage. Philippe, je vous vois...
Ça aurait pu être bien pire. Maintenant, aujourd'hui ce serait plutôt un bon tirage.
Voilà.
Est-ce que dans 2 mois ce sera toujours le cas? Ça reste à voir.
Salim, on a l'impression que ça dépendra de la présence ou pas de José Mourinho sur le banc.
C'est terrible, hein, on en est là. Il y a quelques mois, quelques années, un United PSG, on aurait été effrayé pour le PSG avec ce tirage. Là, aujourd'hui, on est en train de se dire, ah, United est mal tombé sur le PSG.
Il y a vraiment quelques
PSG.
Années. Hein.
Oui, c'est, comme quoi, oui, ça a changé effectivement.
Depuis le départ de Ferguson,
on était plus jeunes à ce moment-là. Mais c'est vrai que United, on évoquera à travers les performances en PL de cette équipe. C'est vrai que si cette équipe va mal dans les semaines à venir, il y a la fameuse période de fin d'année avec le Boxing Day 26 et les autres journées. Si United vient à perdre encore 2-3 matchs, en tout cas des contre-performances, ben, à un moment donné, il va falloir se poser la question de José Mourinho. Il y a des équipes qui ne sont plus qu'à 2 points de United alors qu'elles étaient dernières. West Ham, qui est mon équipe de cœur, qui était dernière il n'y a pas si longtemps, on est 9e à 2 points de United. C'est vous dire les performances catastrophiques de United depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en fait. Donc oui, à un moment donné, ça va pas pouvoir continuer avec Mourinho.
Patrick, un bon tirage ou peut-être,
bah
peut-être
oui,
que non.
Quand même un bon tirage, n'ayons pas peur des mots. Si on regarde les équipes sur lesquelles le PSG aurait pu tomber et ce Manchester United-là qui est 6e, qui est plus proche du ventre mou de la Première Ligue que des places qualificatives pour la Ligue des Champions en termes de points et en termes de qualité de jeu. La dernière fois que United a au moins eu des résultats potables, c'était lorsqu'il gagne la Ligue Europa. Mais c'était en partie grâce à la présence de Zlatan Ibrahimovic qui avait un petit peu transcendé l'équipe
Donc et puis le parcours de Manchester United n'avait rien eu d'exceptionnel. Voilà. Ils avaient battu personne.
Enfin, qui avait ponctuellement un petit peu transcendé cette équipe, mais globalement, depuis le départ de Ferguson, c'est une équipe qui est en déclin. L'institution reste forte, c'est encore un club en termes de merchandising, de notoriété mondiale qui est absolument énorme, ça reste un gros club, mais avec les résultats ne suivent plus, et donc les dirigeants vont devoir à un moment remettre les deux éléments en phase, puisque l'aspect économique s'est totalement détaché de l'aspect sportif.
Frédéric ?
Oui, j'irai dans le même sens. Bon tirage, et puis regardons un petit peu dans le rétroviseur. Ces dernières années, le PSG avait croisé le Real de Madrid, Barcelone, Chelsea par deux fois. C'est pas pire, hein, c'est plutôt mieux. Et quand on voit ce que nous ont proposé les Parisiens ces dernières semaines, la montée en puissance, la victoire face à Liverpool au Parc, derrière on va gagner à Belgrade, ça va de mieux en mieux. Ils prennent du coffre et c'est peut-être la bonne année pour le PSG. Donc oui, ils seront là au rendez-vous. Plutôt bon tirage.
C'est vrai, c'est assez unanime. Sur la photographie, encore une fois, d'aujourd'hui, et Fred vient de le résumer, on a un PSG qui monte en puissance, on a un Manchester United qui nous désespère, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, avec la situation Paul Pogba, si j'ai bien compris, ça divise aussi le vestiaire, donc il y a un vrai problème pour Mourinho.
Il y a beaucoup de problèmes à United, et puis encore une fois, vous auriez pu avoir l'Atlético de Madrid en face, vous auriez pu avoir Tottenham en face, voir l'Ajax qui est une équipe ô combien joueuse, et au final vous avez ce United où il y a tant de soucis, là où l'Atletico, Tottenham ou l'Ajax on aura beaucoup plus de positifs que de négatifs, à United c'est totalement l'inverse. Donc encore une fois, peut-être mis à part Schalke qui, à part Nabil Bentaleb qui est au-dessus, sinon cette équipe déçoit depuis le début de saison, ben sinon à part Schalke, vous n'avez pas plus mauvais en deuxième en fait.
Et puis on a envie de voir, en tout cas je suis sûr vous, mais nous tous, ce duel Tourelle-Mourinho, il y a quelque chose, le jeune qui monte et qui commence à convaincre de plus en plus sur le banc de Paris, en tout cas ces dernières semaines. On se dit, tiens, ben, finalement, on voit à peu près où il veut venir. Et puis, Mourinho, il agace autant qu'il passionne.
Oui, et puis Mourinho, se faire bouffer par un jeune, il connaît. Hein. Il y en a de plus en plus qui passent devant lui et qui lui expliquent, entre guillemets, le football sur le terrain. Il y en a de plus en plus.
Oui, comment rendre le football attractif.
Il y en a un ce week-end déjà, Klopp, qui ne l'avait jamais battu. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, on se demande. Mais là aussi, Mourinho est passé à la trappe. On a l'impression qu'il a perdu... Moi, j'ai la sensation que depuis le Real, il a perdu complètement la main, perdu le... Bon, c'est une sensation extérieure.
Donc il a perdu son mojo.
Ça n'a pas une valeur extrême, mais j'ai l'impression qu'il a perdu le goût même de ce métier. Quand je vois ses recrutements, ces choses comme ça, je me dis, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus sur le sportif, il est sur autre chose, il est sur du business, il n'est plus sur du sportif. J'ai cette sensation et son rapport avec les joueurs a complètement changé. C'était un entraîneur adulé par ses joueurs. Ça a été sans doute le meilleur manager au monde. De part, peut-être pas sur le plan tactique ou autre, ça c'est autre chose. C'est un autre, on aime son football ou on l'aime pas. Moi j'ai jamais aimé et j'aimerais jamais. Bon, on n'en parle plus. C'est un autre débat. Mais j'avais de l'admiration pour le manager. Moi, j'en ai plus aucune. Tous les joueurs le détestent. C'est quand même extraordinaire. Tous les joueurs le détestent.
Oui, cette faculté à se fâcher à chaque fois avec la star du club. Là, c'est Paul Pogba. Enfin, ça peut pas
voire
mener
même à l'humilier.
C'est ce que j'allais dire. À l'entraînement.
Les mots, quand même, vont loin. Quand Mourinho traite Pogba de virus, c'est violent, quand même. Hein. Virus, c'est pas... C'est pas petit con ou idiot, c'est virus quoi. C'est-à-dire un corps étranger qui pourrit un organisme de l'intérieur. Hein. C'est pas autre chose. Donc c'est quand même dur quoi. Hein. Et donc ça ne peut se résoudre que cette guerre des mots ne peut se résoudre que de deux manières. Soit par le départ de l'un des deux protagonistes, soit par un hypothétique. Une sortie par le haut, c'est-à-dire que d'un seul coup, Manchester United, confronté au PSG, sortirait le match de l'année et arriverait à renverser le pronostic, en fait. Mais pour l'instant, on voit pas, parce qu'il montre semaine après semaine en Première Ligue, on voit pas comment ça pourrait arriver. Et puis, je parle même pas de la Ligue des Champions. Le dernier match dont j'ai vu des morceaux à Valence, la semaine dernière, c'était catastrophique.
Pour reprendre cette expression qui vous est chère, on parle de impact player pour Pogba, et Mourinho, c'est le no impact manager maintenant.
Ben, en fait, il n'y a plus aucun... Aucun mot, j'ai l'impression, parfois avec Mourinho. Enfin, il n'arrive plus à tirer ce petit truc, en plus, cette petite étincelle de la part de ses joueurs. Vous évoquiez à juste titre Pogba, mais on peut en évoquer d'autres. Lukaku également, qui a été lourdement critiqué par José Mourinho. Martial, un certain temps. Alors lui, il a réussi. Martial, en le critiquant, au final, il a réussi à revenir le français, à marquer des buts, d'ailleurs, en étant cet impact player, justement, ces derniers mois. Enfin, ça reste très compliqué. C'est au final très ponctuel. Martial, ça a réussi, mais les autres, ça ne marche plus. Il y en a d'autres avec lesquels il a tenté, même Mata à un moment donné, bon, il entre une fois sur deux, mais au final, il n'est plus utilisé comme il le faut. Enfin, on n'a plus de joueurs. Et je rejoins juste, pardon Patrick, je rejoins Philippe à l'instant. C'est vrai, sur l'accumulation de joueurs, c'est vrai qu'en défense, on le voit. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui ont été achetés ces dernières années, Bailly, Lindelof. Ouais, mais au final, même Bailly n'est plus que l'ombre de celui qu'il a été en Espagne. Exact. Et puis d'autres joueurs qui ont été plutôt bons à l'étranger, ils arrivent à Manchester. C'est des joueurs moyens. Exactement. En fait. Ils deviennent des joueurs moyens.
Et Salim, je vais tout à fait dans votre sens. On voit un joueur comme Mkhitaryan qui était fabuleux en Bundesliga, qui là. A une influence très limitée. Alexis Sanchez, évidemment. Quand il était à Arsenal, c'était pas toujours parfait, mais c'était quand même un joueur décisif. Maintenant, il est complètement réduit à la portion congrue, donc c'est quand même assez désespérant. Et Mourinho essaye de jouer un peu les supporters et contre le reste du monde, dire quand même moi je représente le club et je vous défends, mais. Peut-être que dans les mots, il les défend, mais sur le terrain, il leur fait plus honte qu'autre chose, quoi.
Non, mais à nous écouter, finalement, la meilleure chance du PSG pour ce huitième de finale, c'est que José Mourinho reste sur le banc. Hein. et comme on le souligne, il peut se passer beaucoup de choses, hein, avec cette fin d'année, Boxing Day, et peut-être que United, dans deux mois, aura un tout autre visage, parce que les joueurs, ils sont là, ils les ont quand même. Hein.
Il y a des
attention,
joueurs.
Bien sûr. C'est ce que rappelait, il y a quelques instants, pratiquement au micro de Salim Boumgali, en tout cas sur la chaîne pour laquelle il travaille, RMC Sport, je vous propose d'écouter l'entraîneur adjoint, Zoumana Camara.
Manchester a de très très fortes individualités, donc même si en ce moment ils sont en difficulté, ce sont des joueurs qui peuvent se sublimer sur deux matchs, donc tout est réuni pour faire un grand match et essayer de se qualifier, donc il va falloir rester vigilant.
Bien sûr, le discours est convenu, mais ouais. Ça va dans le sens de ce qu'on dit.
C'est normal.
C'est que, oui, bien sûr, lui, il peut pas dire autre chose. Mais en même temps, voilà, ça va dans le sens. Pour l'instant, c'est la belle endormie et ça va très bien comme ça au Paris Saint-Germain, mais on sait jamais ce qui peut se passer.
Denis Irwin, qui était également à Nyon, donc en Suisse, pour ce tirage au sort, représentant de Manchester United, l'ancien joueur de United, était dans le même sens aussi et il l'a dit même avec ses mots. Effectivement, nous, on va mal en ce moment, là où vous avez un PSG qui, en revanche, marche très bien. Donc, oui, tout le monde va dans le même sens et comme on l'a évoqué sur ce plateau. Donc, nous sommes en décembre, et en décembre, effectivement, United va très mal, le PSG va très bien. Dans deux mois, on en reparlera.
Alors ça marche très très bien pour Manchester United, Paris Saint-Germain, mais ça va pas marcher pour Lyon-Barcelone. Hein. Lyon va très très bien. Le problème, c'est que Barcelone va toujours très très bien et un cran au-dessus. On savait que pour Lyon, il y avait pas de bon tirage. Là, ils ont pris le pire.
Pas forcément compte tenu de ce qu'est Lyon. C'est-à-dire que moi j'ai la sensation que Lyon finalement ils ont besoin d'avoir un adversaire tout comme ça. Ils sont pas
comme
capables.
Comme ils avaient besoin d'avoir Manchester United en poule. City.
Je pense qu'ils étaient plus à l'aise contre Manchester City qui fait le jeu que contre Hoffenheim ou Shakhtar Donetsk. Alors après bon, il faut pas faire des généralités et se dire du coup on va passer Barcelone sans logiquement Lyon est à sa limite de compétence en huitième de finale. L'équipe d'aujourd'hui de Lyon. Avec l'avenir qu'elle représente, qui est quand même un avenir intéressant, à la différence d'autres clubs, il faut pas le souligner, c'est une équipe d'avenir qui peut progresser à travers ces matchs-là, qui a sûrement progressé à travers ceux de City. De là à se dire qu'elle va tellement progresser qu'elle va en plus accrocher le Barça, je pense que ça va être compliqué.
Ouais, alors je vais dans le sens de Philippe, c'est vrai que c'est un tirage terrible, mais de toute façon pour Lyon... Même s'ils avaient...
Oui, vous allez dans le sens de Philippe, mais je ne vois pas qui aujourd'hui va pas aller dans le sens de Philippe.
Non, mais...
Le tirage, il peut pas être plus dur, encore une fois.
Il peut pas être plus dur. Alors, on aurait pu penser, oui, le FC Porto, c'est plus accessible. Évidemment, dans l'absolu, c'est vrai. Maintenant, Le FC Porto surdomine son championnat, il déroule complètement, donc ils vont arriver sur les huitièmes totalement reposés et tournés
ils
vers
ont
l'objectif.
Surdominé leur poule aussi.
Le Barça ne déroule pas en Liga. Le Barça a déjà deux défaites quand il n'en avait qu'une à ce stade la saison dernière. Le Barça prend beaucoup de buts.
C'est vrai.
C'est minimum un but par match qui est pas dans les standards habituels du Barça. Donc c'est intéressant sur un match, sur un huitième aller-retour de savoir qu'ils sont prenables, ils sont pas infaillibles défensivement. Le départ d'Iniesta a sans doute pesé pas mal pour cette équipe qui n'a pas forcément été bien remplacée. Et puis c'est pas l'identité de jeu du Barça. Autant elle était claire à l'époque de Guardiola et Luis Enrique, autant avec Valverde, ça dépend quand même beaucoup des exploits de Messi. Donc si Lyon arrive, et ça, c'est, il suffit pas de le dire, à neutraliser Messi un tant soit peu...
Un joli mercato d'hiver avec N'Golo Kanté dans les...
Non mais,
et voilà, c'est
mais
fait.
Non mais, tout la est Roma, possible. La Roma l'a fait la saison dernière. Oui. Est-ce que Lyon est plus faible que la Roma? Donc, non, on cherche des raisons d'espérer.
Pardon.
Messi était complètement passé à côté de son match.
Oui,
hein,
mais vous êtes
olympique
à
Rome.
Vous avez raison. Effectivement, l'année dernière, il y a eu 4-1 à l'aller pour Barcelone, 3-0 retour pour l'AS Rome. Pardon, mais faut les chercher quand même les cas particuliers. Alors, il y a eu Juve Barcelone aussi. C'était il y a deux saisons où la Juve avait sorti le FC Barcelone. Enfin, c'est des cas particuliers.
Trois saisons, il y a eu PSG Barcelone. Ouais. Ils ont quand même des soirs noirs, ça leur arrive.
Il y a eu 4-0.
Oui, d'accord.
On n'imaginait pas qu'il y aurait 6-5.
J'insiste, ce sont des cas très particuliers, très ponctuels. Et Messi, Patrick, alors oui, Lyon, effectivement, face au gros et face à City, l'a démontré. Messi, en ce moment, est, alors, on va me dire, le meilleur joueur du monde, le trophée a été attribué il n'y a pas si longtemps à Luka Modric. Enfin, en ce moment, voilà, puisque nous parlons du moment présent, dans deux mois, on verra. Mais en ce moment, Lionel Messi est tellement au-dessus de tout. Hier, il a encore prouvé en mais Messi est inarrêtable. Et puis, quand vous avez à côté des joueurs comme Coutinho qui sont toujours là, Suarez qui est toujours là, Ousmane Dembélé qui commence petit à petit à faire ce qu'il faut, il l'a montré lors de la dernière rencontre de Ligue des Champions avec un but fantastique.
Mais il est arrivé à l'heure.
Enfin, à un moment donné, pardon, mais Lyon, oui, est pas favori du tout et ça va être très compliqué avec un retour à Camp Nou aussi.
Bon, là,
enfin, c'est
alors,
le pire tirage possible.
Après, d'un autre côté, sur ce match, aucune pression ne sera sur les épaules de Lyon. C'est-à-dire, dans l'Europe
c'est
du football,
c'est
absolument
vrai.
Personne ne s'attend à ce que sur deux matchs, l'OL sorte le Barça. Donc, aux joueurs de profiter de ça pour déjà prendre du plaisir. Et c'est souvent quand ils sont dans cet esprit-là qu'ils sont intéressants, les Lyonnais. Quand ils cherchent à gérer, ils savent pas faire.
Non, mais l'équation, elle est là. Zéro pression, et Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est un club pour la Ligue des Champions, en tout cas, qui est en reconstruction. Hein, il y avait eu toutes les années 2000 où les Lyonnais sont arrivés, je crois, on regardait tout à l'heure, neuf années d'affilée en huitième de finale. Il y avait qu'Arsenal qui faisait aussi bien. Ça s'est arrêté en 2012. Il y avait eu quand même une demi-finale de Ligue des Champions en 2010. Et là, ça repart. Ils reviennent en huitième de finale, première fois depuis 2012. Ils ont battu Manchester City en poule. Aucune défaite sur les six matchs, même s'il y a eu les nuls face à Hoffenheim, face au Shakhtar, ok, mais ils sont là. Effectivement, ben, qui sait, face au Barça, vous avez Nabil Fekir, vous avez Dembélé qui s'est révélé. Il y a Memphis Depay. C'est pas forcément perdu.
Ça
non,
n'est pas
non,
moins
non,
bien que la Roma, mais... Je vous propose d'écouter Bruno Genesio parce que ça dépendra aussi de lui et de la capacité qu'il aura à mettre un plan en place. Bruno Genesio.
Avoir la chance d'affronter un grand d'Europe face à un joueur comme Messi, tous les plans qu'on peut faire parfois sont déjoués parce qu'il a un tel génie qu'il est capable de déjouer tout ce que vous pouvez mettre en place. Je crois qu'il a marqué 50 buts sur l'année 2018. Et puis il n'y a pas que lui, bien sûr qu'il y a Léo Messi, mais il y a d'autres très très grands joueurs dans cette équipe, donc il faut mettre des plans partout sur le terrain, mais surtout il faut avoir un collectif qui soit à 100%, à 150% pour avoir un espoir d'éliminer cette équipe sur deux matchs.
Bruno Genesio dans un placard du stade, hein, donc vous l'aurez entendu, il se cache.
J'espère que c'est pas un symbole de son avenir proche.
Hein. Il pointe.
Il n'est pas responsable du son.
Oui, voilà. Non, il pointe évidemment Messi. La clé est toujours là. S'il est à 100% l'Argentin, comme il l'est en ce moment, il va falloir mettre un plan Messi. Et voilà, c'est l'éternel problème.
Même s'il est blessé, le Barça sera favori contre Lyon.
Oui.
Il n'y a pas de débat. Il faut se rendre compte que ce qui est devenu l'Europe, l'Europe du football, l'autre Europe, on peut en parler, mais dans une autre émission.
On a des émissions pour s'assurer.
Ouais, aujourd'hui, le Barça, c'est 5 fois le budget de Lyon. C'est-à-dire qu'on est, les écarts sont creusés d'une manière ahurissante. Lyon est toujours un club tout à fait correct, pas au niveau des années 2000, parce que le reste s'est surarmé pendant ce temps-là. Alors qu'en France, on n'a pas su surarmer, à part les clubs qui ont des revenus extérieurs. Mais sinon, voilà, les écarts sont là. Donc quand j'ai entendu, enfin, Salim me disait pendant la pause que Ferland Mendy a hurlé de joie, a sauté de joie quand il est tombé sur le Barça. Je le comprends.
Ils ont envie, tous les jeunes lyonnais, quand on leur demandait hier, alors vous avez envie de...
envie de jouer des super matchs comme un petit
Porto
club.
Porto, ce serait mieux, ils disaient tous,
comme un petit club en Coupe de France, veut tomber sur le PSG pour faire un match,
Match de gala.
Vous avez raison, mais il y a une autre raison un peu plus cynique, c'est que les joueurs savent tous que s'ils jouent contre un grand d'Europe type Barça-Real, le match sera beaucoup plus scruté et suivi médiatiquement que s'il joue Schalke, donc forcément
non, ça a été le cas
pour leur exposition
City,
le cynisme du type là,
le
vraiment,
cynisme, alors, c'est la réalité pour leur exposition et les futurs mercato,
sûr,
c'est
évidemment
important.
Très mauvaise nouvelle pour Ferland Mendy, ça tombe le même soir que Liverpool-Bayern,
c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ça. Alors que United-PSG, ça tombe le même soir que Porto-AS-Rome,
donc oui, mais sur les télés modernes on peut splitter l'écran en deux,
ah oui, il faut avoir une télé moderne
très grande.
Et puis les huitièmes de finale, ça s'étale sur à peu près un mois. Hein.
Alors oui, on peut vous rappeler les dates. Manchester United, Paris Saint-Germain, ce sera le 12 février. Donc ça ouvre le bal le même soir que Roma, Porto.
Vous croyez que
une
le
affiche sur laquelle on va parvenir.
Le PSG aura rejoué d'ici là, ou vous croyez un match ou c'est pas possible. C'est pas possible de jouer un match.
Il faut en causer avec des gars qui ont des gilets jaunes.
Oui, il faut en causer avec un État qui s'appelle la France et qui est quand même très bizarre.
Là aussi, on a des émissions pour ça sur RFI.
C'est plus tard. Il faut que je revienne plus tard.
Semaine prochaine.
Vous allez vous établir ici et prendre un lit de camp,
il
Philippe,
va faire toute la
pour
semaine,
faire
Philippe.
Toutes les émissions.
Pour Lyon, Barcelone, pour tous nos auditeurs, fans de l'Olympique Lyonnais, non, de Barcelone, bien sûr, eh bien, ce sera le 19 février, le même jour que Liverpool-Bayern. Bah tiens, puisqu'on en parle, allons voir les deux, trois autres très belles affiches qui vont... C'est vrai que ce jour-là, on peut aimer Barcelone, on peut aimer Lyon, mais tous autour de la table, on regardera quoi? Liverpool-Bayern.
On regardera les deux en même temps.
Non, mais c'est vrai qu'on peut faire ça sur votre chaîne.
Mais
on peut splitter l'écran.
Bon,
il faut que je m'abonne.
Oui, évidemment.
Non, mais Salim fait le multiplex.
Liverpool-Bayern.
C'est vrai que sur le papier, c'est magnifique, ah ouais, dans le sens où, donc vous avez ce trio offensif, évidemment, on a suffisamment parlé à Liverpool, Salah, Mané, Firmino. En face, vous avez Robert Lewandowski, c'est juste le meilleur buteur du Bayern. Hein, et vous avez peut-être, j'avais envie de dire, la dernière saison avant de tourner une page dans ce cycle Bayern, notamment avec Robben qui va quitter le Bayern à l'issue de cette saison. Vous avez ces vieillards, Ribéry, Robben sur les côtés qui sont toujours présents, vieillards à l'heure du foot, évidemment, Lewandowski donc en pointe. Je rappelle aussi, chose très importante, Virgil van Dijk ne sera pas là pour le match aller. Il est suspendu pour le match aller en field. Ça peut être quelque chose de décisif aussi, parce que défensivement, c'est van Dijk avec et van Dijk pas là. Ça change tout à Liverpool aussi.
Pour le carton rouge qu'il n'a pas reçu contre Mertens.
Pour le carton jaune qu'il a reçu plutôt. Voilà, ça donnait ça, exactement.
Je vous encourage à aller revoir cette image si vous ne l'avez pas vue, parce que
oh,
vraiment, s'il
n'y
a pas carton rouge là-dessus, Mertens peut se faire briser
la
jambe.
Il s'est relevé dernière journée.
Et au final, il s'est relevé tranquillement. Quand vous, il n'y avait rien.
Ouais. En première ligue, on ne sifflait même pas.
Exactement.
un petit mot chacun, on est tous d'accord. Fred, enfin, Liverpool-Bayern, c'est quand même l'affiche.
Ouais, super match.
Ça nous rappelle nos jeunes années. Parce
et
que
pourtant,
là, on est au top du top des années 70.
Pourtant, des Liverpool-Bayern, j'en ai pas souvenir de beaucoup. Hein.
Liverpool qui confirme, hein, Liverpool en finale l'an passé, c'était quand même la surprise avec ce dernier trimestre, là, ce printemps incroyable avec Mohamed Salah qui marquait but sur but. Ils sont toujours là, je crois que vous allez en parler tout à l'heure. En championnat, Liverpool est en tête. Alors attention, hein, ils vont devoir jouer sur les deux tableaux. Ils visent le titre en Angleterre, c'est pas arrivé depuis 90. Il y a la Ligue des Champions. Peut-être qu'à un moment donné, Liverpool manquera un peu de fraîcheur, mais en tout cas, ouais, c'est superbe.
Oui, avec un Bayern qui est quand même moins en ballon cette année.
Mais qui revient.
Le Bayern a un peu des allures de fauve blessé, et parfois on sait en Afrique que les fauves blessés peuvent être redoutables, donc attention. Effectivement, le Bayern a tout intérêt à quand même se profiter de la longue trêve qu'il y a en Bundesliga pour se refaire une santé, parce que là, il y a les derniers résultats, les tout derniers résultats, les deux dernières journées en Bundesliga, bon, les résultats bruts sont bons, mais le jeu, encore une fois, c'est pas du grand Bayern, donc on espère pour eux qu'ils vont se refaire, parce que le Liverpool, au contraire, là, est bien reparti en avant. Hein. Le week-end précédent, il y avait eu ce hat-trick de Mohamed Salah. Ce week-end, c'était aussi assez convaincant face à United.
On va y revenir.
Donc bon, c'est intéressant, quoi. C'est, ils sont sur une régularité quand même d'ensemble assez bluffante. Hein. Ils résistent à Manchester City sur le tempo, donc c'est pas évident.
Deux autres affiches sur lesquelles j'aimerais votre avis, messieurs. L'Atlético Madrid, ouais. Bah oui.
Exceptionnel.
C'est derrière.
La grande
affiche. Olivier, c'est bah oui. Atlético Madrid, Juventus.
Ah, c'est extraordinaire. Enfin,
c'est extraordinaire.
Il y en a une qui fleure bon l'ancien temps. Ouais. Celle-là, c'est vraiment. Bah, il y a tout dans cette affiche-là.
Il y a Cristiano Ronaldo qui a déjà marqué 22 buts dans sa carrière face à l'Atlético. Oui, quand il était avec le Real, forcément. Donc, il adore jouer face à l'Atlético. Vous avez ce jeu de Simeone. Alors, on a toujours ce cliché, ce jeu défensif, etc. Mais quand ça veut aller de l'avant, ça y va. Et on l'a remarqué, notamment en Champions League, hein, notamment lors du match retour face à Dortmund, à Madrid, où vous avez gagné 2-0 face aux Allemands. Enfin, Griezmann, évidemment. Enfin, vous avez des histoires dans ce match. Sur le papier, vous avez des joueurs à chaque poste qui sont juste remarquables. Enfin, Liverpool-Bayern, à juste titre, vous avez raison d'évoquer la grosse affiche, mais Atlético-Juge, le même niveau, voire
ah oui,
peut-être
non,
même
mais,
au-dessus. Ne serait-ce que pour Cristiano Ronaldo, le voir avec un autre club que le Real, il l'a déjà fait avec United, de remporter une Champions. Avec le Real, il l'a fait.
Il est venu pour ça.
Et puis, faut pas croire. Alors, la Juve, si on prend les chiffres, c'est pratiquement l'équipe qui est le plus en avance sur ses temps de passage dans les favoris des grands championnats. Mais si on regarde les matchs, souvent la Juve a du mal à gagner. Je me rappelle d'un match contre Empoli où la Juve met une heure à prendre le dessus sur son adversaire
qui est
un mal classé. Le derby ce week-end de Turin, là aussi la Juve a mis du temps à prendre l'ascendant et a été très accrochée. Donc souvent la Juve doit lutter pour gagner, même si elle gagne toujours à la fin. Et donc je pense que c'est
même,
loin d'être gagné.
Elle a même réussi à perdre contre Manchester United. Un match totalement imperdable.
C'est comme quoi,
imperdable.
Donc United peut le faire.
Totalement imperdable.
Voilà. Mais ils ont perdu. Elle a perdu contre les Young Boys aussi.
Exactement. Oui. Bon là c'était... Oui.
Bon, avec les certes, mais... Oui. Il y a pas tant de marge que ça pour la Juve. Il y a pas tant de victoires par 3-4 buts d'écart si on regarde les relevés.
De toute façon, qui a une marge contre l'Atlético?
Et donc ça risque d'être très très serré. Moi, je sens que une surprise, parce que ça serait quand même une surprise de voir un club qui était l'an dernier en Europa League sortir la Juve qui
remporte
deux finales en 4 ans, de Ligue des Champions ces dernières années. On a quand même là les deux équipes, Atlético Madrid et Juventus, qui aurait pu gagner la Ligue des Champions, mais il y avait le Real de Madrid invincible en face. Mais depuis 4-5 ans, c'est les deux équipes qu'on retrouve régulièrement en finale.
Avec un Cristiano Ronaldo, je le disais, qui n'a marqué en fait qu'une seule fois en Champions depuis le début de cette saison, c'était face à Manchester, cette fameuse défaite.
Il avait été suspendu au départ.
Et totalement. Ouais. Et juste, Cristiano, l'année dernière aussi, il démarre pas forcément très bien la campagne européenne. On se pose des questions sur lui, comme sur tout le Real Madrid d'ailleurs. Et à partir de février, il a changé. Donc la Juventus, effectivement, elle est en difficulté. J'attends le mois de février pour voir
séduisante, mais un peu comme le Barça, finalement. Voilà. On a deux clubs qui ronronnent à cette période comme d'habitude.
C'est leur style. C'est leur style. C'est des équipes qui gagnent pas, qui mettent pas forcément une marge considérable, mais sont deux équipes extraordinairement difficiles à battre. Alors là, du coup, il y en aura plus qu'une difficile à battre, puisqu'il y en a une des deux qui va sauter dans ce rendez-vous. Qui sera un vrai rappel de la vraie Coupe d'Europe à l'ancienne. Ou les deux matchs acharnés.
Avec, un partout à l'aller.
Oui, voilà, bien accroché comme
il faudrait
faut.
Qu'il pleuve et qu'il y ait de la boue aussi. Et pour les poteaux carrés, je me suis renseigné, ils veulent pas. Mais on aurait pu faire à l'ancienne. Avec les maillots bien moulants, les championnats.
Ah, ça vous irait pas le maillot moulant. Hein.
Non,
à l'ancienne, ça sera.
Rien de ce qui moule ne me va.
Non, mais Olivier, à l'ancienne, c'est tout plus possible. Les deux clubs ont construit des nouveaux stades dans ces dernières années. Donc.
C'est vrai.
Là, c'est plus du tout à l'ancienne.
Je vous propose une autre affiche quand même, parce que vous êtes là, oui, alors il y a que les gros, alors quoi, Tottenham Dortmund, ça vaut pas.
Il y a du jeu, justement. Ça y va, Lucien Favre.
Justement, Juve Atlético, c'est un peu un duel entre des équipes assez défensives quand même. Là, au contraire, Tottenham Dortmund, c'est ouvert à tous les vents.
Ça fait envie.
C'est un football.
Il y a du jeu là, ça va être un début.
Obligatoirement.
Pochettino Favre, ça
sent très bon.
Ça peut être très bien. Ça peut être un très très bon match.
Je rappelle les autres affiches quand même. Schalke 04 Manchester City, bon courage aux Allemands. Il y a Roma Porto, bon, pourquoi pas.
Équilibré.
Et Ajax Real, le retour de l'Ajax. Venir enquiquiner un Real.
Et si c'était Ajax qui fait enfin tomber le Real. Ouais. Hein, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas perdu. Hein.
3 ans.
Triple donnant du titre, quoi.
Il y a vraiment un coup à faire pour l'Ajax.
Je croyais qu'il y avait des confrontations.
Il y a eu des cartes finales mal embarquées, mais qu'ils ont réussi à retourner.
L'Ajax qui a gagné 8-0 ce week-end en championnat néerlandais avec un triplé d'Hakim Ziyech, absolument sur un nuage.
Oui, c'est d'ailleurs il est tellement bon que la CAF a pas jugé bon de
dans
le mettre dans
ses
top 10 des joueurs. C'est comme ça. Koulibaly, c'est pareil pour eux, ça vaut rien. À la CAF, on a affaire à des gens qui s'y connaissent à mort. Si vous nous écoutez, un coucou amical, hein, on s'est beaucoup vu ces 15 derniers jours, je me rappelle à votre bon souvenir. Koulibaly existe juste, il est défenseur à Naples. Si vous voulez voir des cassettes.
Mais il croit qu'il joue en équipe de France.
Peut-être qu'à la CAF,
qu'à la CAF, il pense qu'il joue.
Ils ont peut-être encore des magnétoscopes pour le renvoi de la VHS. Pour qu'ils puissent voir et puis leur siège, intéressez-vous un peu à l'Ajax, la CAF, ça vous fera pas de mal. Enfin bref, Koulibaly. Ces deux gars-là d'un top 10 du meilleur joueur à chaque année, c'est à tomber.
L'Ajax est une vraie bonne équipe pour revenir à un sujet sérieux, parce que la CAF, c'est pas très sérieux. L'Ajax est vraiment une belle équipe cette année. C'est pas juste un épisode. Alors, j'ai du mal à imaginer qu'ils renversent carrément le Real Madrid, mais en tout cas en termes de football, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour bouger le Real.
On a évoqué Tottenham, Dortmund sur le côté joueur de ces équipes-là. C'est vrai que l'Ajax c'est le même au final le même tempo. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu peur parfois défensivement. On l'a vu face au Bayern. C'est même si l'Ajax n'a pas perdu face au club allemand, ou défensivement, on avait quelques lacunes qu'on ne voit pas à Dortmund ou à Tottenham.
Tu peux pas attaquer.
Mais c'est ça, bien sûr. C'est un fait. c'est ça qui peut être plus compliqué face à une équipe comme le Real. Quand vous avez Modric qui arrive à 30 mètres à trouver un Benzema par exemple ou un Gareth Bale, c'est pas forcément très facile et sur le papier pour l'Ajax.
Allez, la petite musique que certains aiment entendre, d'autres moins, ce sera pour mi-février, début mars, ça c'est pour les huitièmes de finale. On rappelle que la finale est le 1er juin, ce sera bien sûr au stade de l'Atlético Madrid.
C'est ça.
Ça va donner encore un peu plus d'intérêt à cet Atlético Madrid-Juventus. Enfin bref, des affiches, vous le savez, vous les retrouvez bien sûr sur africfoot.fr, sur le site d'RFI. Puis pour ceux qui sont vraiment aux abois, qui ne savent pas quoi faire le jeudi soir, il y a eu éventuellement aussi les 16e de finale de la Ligue Europa. Rennes-Bétis-Séville, vraiment.
Vous êtes dur, Olivier. Voilà. Grande première pour Rennes.
Oui.
Lazio-Séville, c'est pas mal. Galatasaray-Benfica.
Oui,
c'est des gros
noms.
Alors,
Galatasaray, ça passe aussi chez vous, hein, c'est pour ça.
Évidemment,
que
exactement. Zurich-Naples, Koulibaly qui jouera en Suisse avec son Napoli.
Non, bien sûr, je chante.
Il y a quand même des petites affiches sympas.
Arsenal, redites-moi.
Ce sera sur Canal Plus en Afrique.
Arsenal, je vous le.
Baté Borisov, Arsenal.
Sur un football de feu.
Plutôt un football de glace, Olivier.
Parlons football de feu, on y va, monsieur Salerno.
De feu, ouais, de glace. Arminio, Escapinio. In the box it goes. Chance here for Liverpool. Sadio Mane. A wonderful finish. Liverpool 1, Manchester United 0. Here come United through Lukaku. The cross comes in. Alisson has built it. 1-1. Would you believe it, Jesse Lingard? Liverpool 1, and out of nothing, Manchester United 1.
Les specials.
Ah, mais j'allais le dire, pour ceux qui ont plus de 40 ans, donc ça concerne tout le monde ici,
le
sauf Salim Boumgali.
Ça
s'appelait les specials. Ça existe peut-être toujours, je sais pas, mais on a tellement
40,
dansé.
40, c'est quoi ce nombre?
On dansait
40.
Le rock'n'roll. Oui, bon, ça va, mecton. les buts, bien sûr, et les commentaires anglais. C'est quand même autre chose que ces Argentins, là, avec leur goal. Les Anglais, là, c'est quand même autre chose.
Ça manque de vocabulaire, c'est
mais,
sûr.
Mais évidemment. RFI, si tu nous écoutes, de la pièce d'à côté. Liverpool-Manchester United, donc venons-en, c'était le choc du week-end de Monsieur Boumgali, parce qu'il est partout, hein, Monsieur Boumgali, sur sa chaîne, ils en ont qu'un, alors ils le mettent partout, il fait le tirage au sort à midi, le lundi...
Tous les Africains regardent ça sur Canal Plus Afrique, hein,
oui. Exactement.
Il n'y a pas que Salim
tout
dans la
fait.
Vie. Hein.
Exactement.
Oui, bah, non, mais
ça suffit
c'est
maintenant.
Pour l'encourager.
Il y a Philippe Doucet sur Canal Plus Afrique.
Tout à fait. Liverpool-Manchester United, la leçon de Klopp à Mourinho, on peut le dire ça comme ça, on va l'écouter, Jürgen Klopp, et puis ce sera plus facile d'en parler après.
La façon dont nous avons joué était parfaite. Nous avons passé le ballon dans les bons espaces en jouant entre les lignes. Ensuite, pendant une demi-heure, nous avons un peu perdu le fil de notre match. Ils ont marqué et alors tout était un peu plus ouvert. Je n'avais donc aucun problème à ce que l'arbitre siffle la mi-temps, pour être honnête, car nous avions besoin d'ajuster certaines choses. Vous avez souvent besoin d'un peu de chance, comme on en a profité sur les deux buts déviés. Mais parvenir à se créer ces situations, à vivre ce genre de moment, c'est juste le football. Le premier but, quel but ? C'est brillant, exactement comme il fallait le faire. Une passe fantastique, un super contrôle et une finition géniale. C'est presque une soirée parfaite pour nous.
Bah oui, on le comprend. Liverpool est en tête, enfin depuis le week-end de dernier, un point d'avance sur Manchester City, 19 de plus que Manchester United. La différence s'est vue hier, clairement.
Oui, c'est un record. Hein. Jamais après 17 matchs, on a eu un tel écart entre Liverpool et Manchester United, que ce soit en Premier League ou avant cela en Division 1. C'est vrai qu'hier, l'écart, 35 frappes pour Liverpool dans toute la partie, 6 pour Manchester United, 11 frappes cadrées pour Liverpool, 2 simplement pour United, dont le but qui a été marqué hier. C'est vrai que l'écart, on l'a vu, et Jürgen Klopp l'a bien dit, quand il y a eu ce but de United, d'égalisation suite à l'erreur d'Alisson, on a vu United qui... C'est pas United qui a eu plus de cas, c'est Liverpool qui s'est recroquevillé presque. C'était un peu étrange comme sensation. Mais au final, United n'a pas eu d'opportunité, donc n'a quasiment jamais mis en danger Alisson. Et Liverpool a pris son temps et a réussi donc à avoir ses opportunités. La réussite de Shaqiri, évidemment, mais Liverpool a donné une leçon de football avec surtout un United tellement fébrile sur le papier et surtout qui n'a pas fait peur avec trois joueurs à vocation offensive, Rashford, Lingard et Lukaku, et sinon surtout des joueurs à vocation défensive. Quand vous avez cela sur le papier, vous savez, le signal que vous envoyez à l'adversaire, c'est un signal, ben on a peur de toi en fait. On a peur en mettant 8 joueurs à vocation défensive, et c'est ce qui s'est passé hier. Jürgen Klopp a pu établir son jeu et le faire de manière remarquable, car en face, il n'y avait pas de répondant, il ne pouvait pas y avoir de répondant. Lukaku est au fond du trou, Rashford et Lingard, c'est beaucoup trop peu.
Alors parlons de Liverpool un peu plus. Le match s'annonce, alors il n'est pas dit encore que ce ne sera qu'un match Liverpool-Manchester City, mais a priori on y va tout droit à ce match qui peut nous tenir en haleine.
Ce sera le 3 janvier, City et Liverpool.
Ce sera le 3 janvier, oui. Allez boum, pensez-moi, Frédéric Suto, il ne faut pas qu'on travaille le 3 janvier, on regardera ce match-là.
Le 4.
Ah bah oui, c'est vrai, je travaille déjà pas. Ah bah c'est cool, j'ai pas besoin de demander.
Faut trouver une télé, c'est différent.
Ouais, il faut trouver une télé.
Sur ton lieu de vacances.
Voilà. Mais c'est vrai que Liverpool. Ouais. On a envie d'y croire, quoi, cette année.
Attendez quand même le Boxing Day avant de dire.
Tout ce sera
un
cette
duel
période.
Oui. Exact. Parce surtout... que parfois il y a des choses qui changent. Il y a beaucoup de journées à ce moment-là. Ça s'enchaîne très très vite. Il y a beaucoup de journées, beaucoup de matchs. Donc ça peut tourner. Je pense que Tottenham et Chelsea ne sont pas largués, voire Arsenal.
Liverpool en 4 jours va faire.
Ils sont capables de revenir dans la zone. Chelsea a battu Manchester City l'autre jour, donc ils sont pas inatteignables.
On est avec 4 équipes en 8 points. Hein. Liverpool 45, City 44, Tottenham 39, Chelsea 37.
Mais ce qu'il faut noter aussi, pardon Salim, c'est que les équipes anglaises sont très très haut, très très haut. Je veux dire, ils ont un nombre de points considérable pour ce stade de la saison. Ils ont quasiment pas perdu.
Liverpool n'a pas perdu.
C'est
n'a pas perdu.
Dans ce championnat-là, après 17 journées.
Et City a perdu un match et a dû faire un nul ou peut-être deux nuls. Donc, ils perdent très très peu de points. Mais il y a bien un moment quand même où ça peut s'équilibrer un peu. Et à ce moment-là, ceux qui sont derrière, qui ont déjà un très haut rythme, qui ont un rythme de champion, hein. Tottenham, Chelsea ont aussi des rythmes de champion à 39-37 points. C'est énorme à ce stade de la saison. Donc ça peut revenir.
Mais l'an passé, personne n'était parvenu à suivre le train de Manchester City.
Il y en avait qu'un, absolument.
Et là, Liverpool s'accroche, invaincu. Et l'équipe, elle est plus équilibrée que l'an passé. Hein. On a Naby Keita qui est arrivé. Hier, il est sorti à la 70e. Shaqiri qui rentre, paf, le joker, le super sub qui met les deux buts. Il y a Alisson dans les buts. Alors hier, petite boulette qui a permis à United de marquer. Mais quand même, c'est un sacré gardien. On l'a vu depuis le début de la saison. L'équipe est plus équilibrée. Et il l'avait bien expliqué avant les confrontations Ligue des Champions face au PSG, Jürgen Klopp. Il l'a vraiment façonné touche par touche, poste par poste. Il lui a fallu 2-3 ans. Et là, on sent vraiment que ça commence à tourner à plein régime.
Défensivement, c'est impressionnant dans le championnat anglais. 7 buts encaissés en 17 matchs.
C'est un record pour Liverpool, là encore. Mais il y a plein de records à ce stade de la compétition. Le nombre de points qui a été récupéré par Liverpool, c'est un record dans son histoire, que ce soit en Premier League ou même en Division 1. Jamais une aussi belle performance de Liverpool dans son histoire. Enfin, on a tous les superlatifs possibles avec cette équipe de Liverpool, malgré certaines rencontres où Liverpool n'est pas sensationnel. Hein. Face à Everton, rappelez-vous, ce 1-0 avec Divock Origi qui marquait à la 96e. D'autres rencontres, même face à Watford, il y a 3-0 au final, mais 0-0 à la mi-temps avec Watford qui domine. Ce qui est intéressant, c'est que City, au final, arrive à gagner ses matchs assez aisément à domicile. Donc City cavale, en tout cas, a les points qu'il faut. Et Liverpool, à côté, a des difficultés parfois dans certaines rencontres. Et malgré ça, Liverpool réussit à gagner le match qu'il faut contre Everton, on l'a dit, contre United. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est de voir Liverpool toujours réussir à répondre à City. City qui, la plupart du temps, joue avant Liverpool. Et ben Liverpool doit répondre et Liverpool le fait à chaque fois très bien. C'est ça qui est fort.
Avec Salah et Mané qui eux aussi, si Liverpool est si fort, c'est qu'eux aussi enchaînent une saison exceptionnelle par un autre début de saison exceptionnel.
Même si Mohamed Salah est un peu en retrait par rapport à ce qu'il nous avait fait en fin de saison dernière.
C'est quand même
ça veut dire
mal.
Qu'il y a même encore revient, un match. S'il retrouve vraiment le coup de rein, il est en train de le retrouver. Ouais.
Depuis 3-4 matchs, il revient bien.
Effectivement.
C'est ça. Et juste par rapport au calendrier de Liverpool qui évoquait Philippe, il y a le 3 janvier, certes, le City-Liverpool, et 4 jours avant, il y a Liverpool-Arsenal. Donc, en 4 jours, ça se joue potentiellement pour Liverpool aussi. C'est Ferguson qui disait souvent qu'on ne gagne pas forcément le titre dans cette période, mais on le perd. Ben, ça peut être potentiellement le cas pour Liverpool. Si vous faites un couac, voire deux couacs, ça deviendra compliqué.
Peuvent-ils faire un couac contre Arsenal? On vient de parler des 4 premiers, et ça veut dire que Arsenal n'est pas dedans. Arsenal a perdu hier pour la première fois depuis 22 matchs, toutes compétitions confondues. Défaite à Southampton, 3-2. Du coup, bah, les Gunners sont entre deux, à 3 points de Chelsea. C'est l'objectif hein, pour les Gunners, d'être dans les 4 premiers, 4e ou 3e. Derrière Manchester United, on en a parlé, est à 8 points des Gunners. Donc largué. Il y a personne derrière, en gros, pour les Gunners. Le danger viendra
pas. C'est le top 5. Mais cette année, c'est le top 5.
Mais 5e, ça les intéressera pas.
On ne sait pas, West Ham n'est qu'à 10 points d'Arsenal. Tout est possible.
Excusez-moi.
L'espoir fait vivre.
Exactement. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'Arsenal.
Il fallait bien que ça arrive.
Oui, enfin, face à Southampton. Que ça arrive face à Southampton, c'est plus délicat quand même.
Southampton n'avait pas gagné un match à domicile depuis avril dernier. Ah oui. Il a fallu qu'Arsenal, invaincu, arrive depuis 4
mois. Il a fallu que Southampton change d'entraîneur.
Exactement,
aussi,
Azenutel qui est arrivé.
Azenutel, l'ancien de RB Leipzig.
Et c'est ça, et avec quand même hier 3 buts qui ont été marqués de la tête sur 3 centres. Premier, il faut dire Koscielny qui commet une erreur, souhaitait son retour en PL et il apprécie mal le ballon. Deuxième, il n'est pas aidé Koscielny comme son autre coéquipier à côté, Granit Xhaka qui jouait défenseur central. Et le troisième, c'est une erreur de Bertoneno. Alors vous allez me dire, ce sont des erreurs, c'est pas collectivement. Mais hier, quand même, il y a des erreurs. Et puis, il y a beaucoup d'occasions concédées. On a plus vu Bertoneno que le gardien adverse. Donc, c'est très surprenant quand même de voir Southampton réussir à s'imposer face à Arsenal. Peut-être que Azenutel a trouvé la mayonnaise qu'il fallait.
Le match, en tout cas. C'est vrai qu'Arsenal est pour l'instant un petit peu derrière, mais on sent bien que l'intérêt de cette première ligue, c'est, comme souvent, bon, ce sont les 5 premiers, mais là, c'est vraiment dégagé. Il y a, derrière, il y aura pas de, a priori, à part West Ham, bien sûr.
Bien sûr.
Tout est possible. Le 12 janvier, il y a West Ham Arsenal. Donc, patience. Vous inquiétez pas, j'ai noté tout ça.
Allez, c'est fini pour la première ligue. On a un jingle pour la Ligue 1 parce que ça vaut pas cher, hein. Non, on n'a pas de jingle, il me dit Laurent Salerno. Ça m'étonne pas, il y a moins de moyens en Ligue 1, on le voit bien.
Il n'y a pas de Ligue 1, surtout.
Oui, il n'y a pas de Ligue 1. Alors, en plus, il ne joue pas beaucoup.
Quand il y a avec Monaco, on parlera de Ligue 2, bientôt, si ça continue.
Eh ben, voilà, la transition est là. Car si l'on doit parler de la Ligue 1, c'est qu'il y a eu peu de matchs. 4 ce week-end. Le plus important, c'est bien sûr la victoire de Reims sur Strasbourg. Reims qui est 8e.
Bien sûr.
Avec 25 points.
On parle de West Ham après.
Plus que 15 points à prendre pour le maintien. Et c'est bien parti. Merci, les gars. Non, Lyon-Monaco hier. Il fallait être courageux pour regarder plus de 30 minutes de ce match, peut-être plus d'un quart d'heure. Ça a été vite plié et Monaco a désespéré.
Vous allez me prendre pour un fou, mais moi j'ai regardé en entier parce que je me demandais, en regardant ce match, bon, Lyon a joué sa partition et a été assez efficace et assez sérieux parce que ces derniers temps, Lyon avait souvent des grosses sinusoïdales à l'intérieur d'un même match avec des très bons moments et des moments catastrophiques. Là, c'était relativement carré et rigoureux. Mais alors Monaco, je me demandais, mais est-ce que à un moment, quand cette équipe récupère le ballon, elle va en faire quelque chose? Parce qu'il y a quand même, on va me dire, il y a beaucoup de blessés et tout ça, mais il y a quand même des joueurs que des clubs de bas de tableau de Ligue 1 aimeraient bien avoir. Hein. Des équipes comme Dijon ou Amiens, les joueurs qu'il y avait hier soir sur la pelouse.
Pas que bas de tableau, immense, des Raguis,
voilà.
Enfin, s'ils étaient en forme.
Même de milieu de tableau, voire de haut de tableau, aimeraient bien les avoir. Et là, on ne voit rien se passer. C'est un encéphalogramme plat. On dirait que l'équipe est dans le coma. Et c'est très inquiétant. Et alors, on va en parler sans doute après, mais je veux peut-être que vous voulez reprendre la main. Mais les déclarations d'après-match de Thierry Henry, moi, c'est les bras m'en tombent, quoi.
Je vous propose d'écouter Thierry Henry parce que c'est plus facile de flaguer après.
Oui, on s'est retrouvé à 10. Oui, il faut donner aussi énormément de respect à Lyon. A fait un bon match, mais sur les buts, il y avait un manque d'envie. Donc voilà, c'est inquiétant. C'était aussi pareil contre Dortmund. Donc pas d'excuses. Il va falloir faire ce qu'il y a à faire contre Guingamp et essayer de sortir de cette zone rouge avant de partir en vacances.
Essayer de sortir de cette zone rouge. Oui, Guingamp qui est dernier, et Monaco est juste devant, il y a 5 points d'écart entre les deux, oui c'est ça. 13 points Monaco, 19e, ça veut dire 3 victoires, 4 nuls, 10 défaites, 27 buts encaissés. Quand on voit ce qu'on a vu hier, on peut être que pessimiste. Et quand on entend Thierry et Henry, effectivement, on a envie de lui dire, mon gars, t'es pas venu pour justement leur donner envie. Sinon mais pas oui. Envie à, après un mois et demi, il est quoi, 2 mois? Ça fait 2 mois qu'il est là.
2 mois.
Waouh. Philippe.
Ouais, non, c'est sûr.
On finit par avoir de la peine pour lui.
C'est sûr qu'en termes de déclaration, je trouve Thierry Henry n'a pas trouvé le ton, tout simplement. On n'a pas l'impression d'entendre un entraîneur. Bon, après, ça, c'est pas les déclarations qui font que parallèlement le travail n'est pas bien fait, ça, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que Monaco a très très mal travaillé depuis le début de la saison. Je dirais même depuis l'avant-saison, et que tout ce qui arrive aujourd'hui finalement n'est pas l'effet du hasard, c'est un travail complètement raté de préparation qui fait qu'on ne voit que des joueurs soit blessés, soit hors de forme, soit complètement à côté de la plaque, mentalement atteints, ça on s'en doute, ça me paraît normal, mais même pas apte à jouer correctement au football. C'est très très bizarre parce que c'est un club qui jusqu'ici se distinguait justement par une certaine ligne qu'on aimait Jardim ou pas pour, en ce qui concerne la qualité du jeu. Mais en tout cas, il y avait une ligne qui était complètement admise. Et je pense que le Portugais cet été a déraillé complètement. Pris, je pense, par quelques propositions qui lui ont fait un peu tourner la tête et qui, pendant ce temps-là, n'a pas fait le boulot de préparation de son équipe. Son équipe est out. Son ex-équipe est complètement out.
Jardim, oui, mais encore une fois, Thierry Henry est là depuis 2 mois.
Exactement.
Et si on entend, on a parlé d'RMC et
oui, mais tout le monde,
de Canal,
non, je dis ça,
qu'on a entendu hier.
Je dis ça à dessein.
Ça flinguait dès la mi-temps et
je dis ça à dessein, Olivier, parce que quand Jardim est parti, tout le monde a dit, oh, c'est anormal, vous rendez compte, cet entraîneur génial qui a donné de la valeur à tous ces joueurs, qui a fait un travail fantastique, etc. Ce qui était vrai, mais il ne l'a pas fait à l'intersaison. Oui, il a foutu en l'air cette saison.
Thierry Henry semble plus jeune.
Ça ne se dit pas, et c'est dommage. Parce que c'est la réalité.
Thierry Henry semble de plus en plus jeune, finalement, 2 mois après, non, pour essayer de faire quelque chose.
Ce que dit Philippe, que Jardim se soit planté sur l'intersaison et la gestion du début de saison, soit.
C'est sûrement vrai.
Entre se planter, avoir des résultats insuffisants et être avant-dernier et ne pas jouer du tout au football, ne rien faire, il y a quand même un peu de marge. Je veux dire, on peut comprendre si Monaco avait été 12e en étant laborieux, on dirait bon, c'est une saison difficile, ils vont avoir des jours meilleurs, mais là il ne se passe rien.
Il n'y a aucune révolte.
Non, mais je pense qu'ils sont même pas au niveau physique.
On n'a pas l'impression qu'ils ont compris qu'ils allaient jouer le maintien.
Quand Thierry Henry arrive, on se dit oui, bon bah allez, voilà, ils vont terminer 12-13e. Il est là depuis 2 mois, ils sont 19e. Quand on voit le niveau de jeu hier, on se dit mais oui, ils y vont tout droit.
Généralement, il y a le choc psychologique quand vous changez d'entraîneur comme ça.
Là, il y en a pas.
Il est arrivé, ça a été compliqué pendant 2-3 semaines, il y a eu 2 victoires qui sont arrivées, ensuite on s'est dit ça y est, c'est parti pour Monaco, et là il replonge, et finalement il a plus de joker.
Il replonge pas, ils sont au même niveau.
Il y avait une petite étincelle, Falcao là qui a marqué 2 buts.
Après on va le dire, si on
les matchs gagnés étaient médiocres.
Quand on montre aussi peu d'envie dans un match comme hier, c'est ça qui est inquiétant. Ça veut dire quoi? Qu'on veut partir en janvier?
Évidemment.
Les rats quittent le navire.
Ah mais non, mais il y a certains joueurs, un Golovin qui est arrivé après sa Coupe du Monde, il se dit j'arrive à Monaco pour pourquoi pas montrer quelque chose et ensuite aller ailleurs. Mais au final, il joue dans une équipe qui n'arrive pas à jouer et lui-même est pas bon. Enfin, il a qu'une envie, c'est de quitter le navire, comme d'autres d'ailleurs. Ils n'ont plus envie de rester à l'AS Monaco. Le problème, c'est que nous, on avait peut-être une vision extérieure avec Thierry Henry en se disant Thierry Henry est là avec son côté champion du monde, avec tout ce qu'il a montré à Arsenal, etc. Il va rebooster cette équipe et ça va, comme par magie, tout rebooster. Mais non, le problème, c'est que...
Il n'y a pas de magie en football.
Il ne faut pas l'exonérer quand même, il est là pour faire un boulot.
Monsieur Bongali, en 10 secondes, on peut imaginer qu'il y a un troisième entraîneur qui arrive dans la saison où ils vont garder Thierry Henry.
Si Henry renonce, pourquoi pas.
Moi, je pense aussi qu'il est capable de démissionner.
Totalement.
tellement les affaires sont mal engagées. Bon, ben voilà, on termine sur du positif, c'est bien pour Eric Chorat qui reprend la main demain, qui vous parlera de Calcio, de Liga. Rassurez-vous, vous entendrez parler de Ronaldo, de Messi, la dame. On l'a dit, en congé jusqu'à jeudi, Laurent Salerno, Louis Lafargue, merci.